BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group. On va parler justement d'automobile. Alors, la fin du thermique, hein, vous savez que les constructeurs automobiles en Europe ont interdiction de vendre des moteurs thermiques en 2035. Mais on entend certaines clauses de revoyure. Voilà, on se demande si tout ça ne va pas un peu bouger. Ben, on va parler de tout ça. La fin du thermique est-elle vraiment dans 10 ans ou va-t-elle être un peu repoussée avec nos experts Thomas Weber, directeur associé au BCG, expert des sujets automobiles. Bonjour.
Bonjour Thomas, Frédéric.
Merci d'être avec nous. Et Guillaume Vernier. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric.
Directeur associé au BCG, expert en transition énergétique et infrastructure de mobilité. État des lieux avec vous Thomas, les véhicules électriques donc, continuent à vendre. On a l'impression quand même que la percée est un peu moindre et pas seulement bon, Tesla peut-être pour d'autres raisons, mais même les autres véhicules électriques, on en est où aujourd'hui?
Bon, on progresse quand même, c'est plus 24%.
On parle électrique pur ou on parle hybride?
Électrique pur, plus 24% en Europe, premier semestre 25 contre premier semestre 24. Assez démoyanisé, les pays nordiques en avance, les pays du sud, bon, attrapent. En Europe, en Norvège, c'est quasiment 100%. Donc, c'est une jolie vitrine de ce que pourrait être l'Europe en 35. Et je fais juste rappel parce que c'est 10 ans avant l'interdiction éventuelle du moteur thermique, 25, 35. Ouais. Si on regarde un peu en rétroviseur, en 2015, dans le monde, on a produit 331 000 voitures électriques. Et en 25, ça va être 15 millions. En 15, les coûts de batterie, c'était à 420 dollars par kilowattheure. Aujourd'hui, on tourne autour de 100 dollars par kilowattheure. Et j'ai regardé, on a 10 fois, 15 fois plus de modèles, donc plus de choix dans le marché français des voitures électriques. C'est juste pour dire, ça reste une technologie qui est assez jeune.
Oui.
Donc j'attends encore beaucoup de progression, beaucoup de belles surprises en chemin pour 35.
Parce que vous, au BCG, vous considérez qu'environ 85 à 90% des ventes seront électriques en Europe.
Plus électrique, c'est notre modèle.
En 2035,
modèle.
Hein, c'est ça.
En 35, oui.
Donc, on est à 10 ans. On est encore loin, oui, de cette technologie mature, mais quelque part, ça vient d'où? Ça vient de nous, consommateurs, on n'est pas prêts? Ou ça vient des constructeurs qui n'ont pas suffisamment baissé leur prix, selon vous?
Bon, c'est forcément un peu un mélange des deux. On est en train quand même de se rapprocher. Oui. Hein. Il y a des écarts, des prix. Il y a bien sûr encore un manque de pédagogie, un manque d'expérience du produit.
Et puis le réseau électrique aussi qui doit être déployé les bornes de recharge. Alors Guillaume Vernier, justement, la Commission européenne a accepté d'avancer la clause de revoyure et de faire d'ici à la fin de l'année 2025 une proposition sur les mesures de flexibilité. Un petit signe pour dire peut-être que, évidemment, on va un peu revoir l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Est-ce que c'est toujours une ligne rouge ou est-ce qu'on commence à voir un peu bouger les choses? Alors, attention, quand on dit 2035, on repousse pas, enfin, ça risque pas d'être repoussé à 2060. Hein. On va jouer sur 4-5 années, peut-être.
C'est ça. Difficile à dire exactement l'ampleur des discussions. La Commission européenne a voulu mettre le ton en amont de la concertation qui s'ouvre en réaffirmant son attachement au principe de neutralité carbone à horizon 2035 et en réaffirmant de manière assez tonitruante, c'était le discours de la présidente von der Leyen, que le futur était électrique. Donc il y a un ton qui a été donné dans cette discussion. Néanmoins, on s'attend à des discussions un peu d'ordre 2 sur à la fois quels aménagements on va donner aux constructeurs en termes de durée, d'années, de plancher intermédiaire.
Ils ont mis du temps hein, quand même à y venir. Hein.
Il y a eu des positions un peu changeantes, aussi au gré de leurs avancées propres, de la menace que peuvent représenter des constructeurs américains comme Tesla ou chinois. Mais donc voilà, il va y avoir une discussion autour de l'ampleur et puis surtout une discussion que les constructeurs poussent fortement pour mettre sur la table autour de la place des différentes technologies et en particulier l'hybride dans ce panier de technologies. Après, la Commission va devoir se prononcer sur est-ce qu'elles sont vraiment décarbonées ou non. Et on va en reparler juste après avec Thomas. C'est la question autour de l'hybride.
Et tout ça quand même dans un climat où les gens achètent quand même moins de voitures, non?
Alors
qu'elles soient électriques ou pas.
Cette discussion, elle s'ouvre dans un climat qui est tendu. Tendu du côté des constructeurs. Le marché, il est quand même assez atone. On s'attend à un marché de la voiture en Europe qui est plutôt décroissant, si on se projette à quelques années en termes de nombre de véhicules. Les constructeurs, quelque part, ils sont dans une position un peu paradoxale. Ils ont beaucoup engagé en R&D pour amorcer l'électrification. Ils en voient les premiers fruits aujourd'hui, hein, les constructeurs automobiles, c'est 65% de part de marché en Europe sur les ventes de véhicules électriques. Donc ils sont présents, leur part de marché s'améliore, si on prend les chiffres du début de l'année 2025, c'est le fruit de leurs importants efforts consentis. Pour autant, ils ont les premiers signes, mais ils portent surtout une part très importante des coûts liés à cette transition et des investissements. De l'autre côté, on a aussi tout l'écosystème de la recharge électrique qui a investi des montants de capitaux très importants, on parle de plusieurs milliards déployés, pour mettre des infrastructures sur la route, et eux aussi expriment une forte fébrilité parce qu'ils attendent maintenant que les utilisateurs viennent se charger.
Et du coup, parmi les freins que l'on comprend, le prix, ça reste ça continue à rester un frein quand même, parce que le véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique. Je ne parle même pas du marché de l'occasion. Que peuvent faire les constructeurs pour y remédier?
Bon, le prix reste un frein, c'est clair, surtout pour les ménages. Il y a quand même peut-être deux perspectives là-dessus. La Commission européenne, ils ont discuté l'introduction de nouveaux segments des petites voitures électriques, bien abordables, donc le sujet est reconnu. Oui. Et on propose quand même de remettre en forme un segment bien abordable pour les ménages. Et ils ont aussi dit que les constructeurs chinois aujourd'hui, ils sont déjà capables d'offrir une voiture électrique à 12 000 euros. Donc il faut rattraper et fermer les cas. Donc, mais il y a les preuves dans le marché que c'est faisable sous les bonnes conditions. Après, la deuxième perspective, si on regarde les coûts totaux de possession. Donc nous avons fait un modèle, les coûts totaux de possession sur 5 ans, c'est si vous faites le cumul de tous les coûts associés à la voiture, les coûts d'acquisition, l'assurance, les entretiens, le coût d'essence, le coût d'électricité, et vous faites la comparaison de ce cumul pour les voitures électriques versus les voitures thermiques, dans 75% des cas, déjà aujourd'hui, on gagne de l'argent avec les voitures électriques. Donc, ce cumul sur 5 ans, c'est bien inférieur pour les voitures électriques. Donc, ce qui reste, c'est l'investissement initial, les coûts d'acquisition. Mais c'est une bonne nouvelle que quand même, dans la durée, ça fonctionne.
Ouais, ça commence à bouger.
Mais
on voit aussi d'autres freins quand on parcourt la presse, enfin ce que disent les consommateurs. Ils hésitent encore beaucoup à aller au-delà du prix, à aller vers les voitures électriques parce que l'autonomie, parce que les bornes de recharge, il faut parfois un peu les creuser pour les chercher. La revente aussi, ce marché de l'occasion sur lequel beaucoup de Français comptent aujourd'hui. Enfin, c'est un modèle dans l'achat de leur voiture. On n'est pas encore très sûr. C'est tout ça.
C'est tout ça. L'année dernière, on avait interrogé 5 000 consommateurs pour comprendre un peu quelles étaient les barrières à l'adoption du véhicule électrique et s'ils se projetaient dans ce nouveau monde d'électrification. Ce qu'on en avait retiré, c'était que presque un cas sur deux, le ressenti du consommateur, c'était un oui sous condition. Il y avait 4 grandes conditions qui étaient posées par le consommateur pour y passer. Il y avait l'expérience de recharge. Oui. Et ce qui ressort très clairement, c'est que les gens veulent répliquer dans le monde de l'électrique ce qu'ils ont connu dans le monde du thermique en termes d'expérience. Ils veulent que ce soit facile, ils veulent que ce soit rapide.
Voilà.
Et donc aujourd'hui, ça passe par quoi ? Ça passe par le développement d'infrastructures de charge rapide. Ce qui est rassurant, quelque part, si on se projette sur cette condition-là, c'est qu'en un an, en Europe, on a augmenté de 50% le nombre de bornes de recharge ultra rapide. Et sur une borne de recharge ultra rapide, en moyenne, les gens, ils restent 22 minutes.
D'accord.
Et ça va continuer à descendre au fur et à mesure que les véhicules tolèrent des charges de plus en plus importantes et où aussi, au fur et à mesure, que chacun va un peu ajuster ses comportements.
Après, il y a l'autonomie aussi.
Voilà, deuxième condition, l'autonomie qui va avec. Un peu une frontière psychologique aux alentours des 450 km. À partir de 450 km, le consommateur perd un peu la fameuse range anxiety qu'on a beaucoup entendu et qui est un vrai sujet, notamment pour les grands déplacements et puis ce à quoi on associe l'auto aussi, la liberté de se déplacer. Et donc ça, aujourd'hui, on s'en rapproche, on voit des modèles qui aujourd'hui, en autonomie affichée, dépassent les 500 km et en autonomie réelle vécue, atteignent ces fameux 450 km. On a vu que la densité énergétique des batteries a beaucoup augmenté, le coût a beaucoup baissé, et on voit que les constructeurs, quelque part, selon les modèles, où ils mettent ces gains de productivité dans la baisse du coût du véhicule, ou ils le mettent dans l'extension de la durée, justement pour séduire le consommateur. Et puis deux autres critères, mais que Thomas a déjà touché, le marché de la revente. En effet, l'automobile, c'est tout un écosystème, véhicule neuf, véhicule d'occasion. la filière en vit, mais le consommateur aussi en a besoin pour ses projets automobiles. Ce qu'on voit, ce qu'on observe depuis quelques mois, c'est que l'écart aujourd'hui à la revente entre un thermique et un modèle à peu près équivalent en électrique, l'électrique se revend encore un peu moins bien, mais cet écart tend à se réduire. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 8-10% d'écart, notamment parce que les premières générations de batteries ont plutôt rassuré sur leur capacité à tenir dans la durée. Et puis, c'est aussi tout un écosystème de l'occasion qui va progressivement se monter. Et puis, la dernière chose, le coût initial, parce que les coûts complets de détention, les gestionnaires de flotte regardent ça d'un œil avisé, les ménages regardent le ticket d'entrée, et puis des mesures qui ont été lancées comme le leasing social en France, ou vraiment le développement de catégories de véhicules accessibles et quelque part subventionnées par l'État, sont des et le succès que connaissent ces initiatives montre bien qu'il y a une appétence quand même si c'est du domaine du faisable.
Thomas Weber, le sujet des hybrides là, c'est un peu complexe aussi ça, parce qu'on est pas
le sujet des hybrides, c'est
pas
complexe
encore dans
effectivement.
Pas complètement, mais un peu quand même.
Bon, c'est complexe en très bref. Les hybrides sont très bien parce que ça permet une entrée dans la mobilité électrifiée sans prendre trop de risques. Donc c'est une technologie transition pour l'entrée. Et deux, c'est quand même une bonne chose de préserver le savoir-faire des moteurs thermiques parce que je vous rappelle, l'industrie automobile, c'est une industrie globale et en dehors de l'Europe, on aura besoin des moteurs thermiques un peu partout dans le monde aussi après 35. Donc c'est bien pour la compétitivité des constructeurs européens de préserver cette savoir-faire. Les hybrides ne sont pas bien parce que factuellement, ça coûte plus cher.
Il y a deux moteurs.
Il y a plus d'émissions que les électriques. Il y a deux fois, cinq fois plus d'émissions. Donc ça, c'est un sujet pas super facile à traiter. Et en vérité, ça fait une contribution importante pour la transition. Mais un jour, si on a le choix, le système pur électrique, c'est quand même plus puriste, c'est quand même mieux en termes de coûts, en termes d'émissions.
Vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume ?
Peut-être, non, le mot de la fin, je pense, on est face à une industrie jeune qui a, en 10 ans, est quand même des bons géants. On est à un moment où elle se heurte au réel sur plein de dimensions. Et donc c'est un moment assez charnière, on va voir de quel côté tombe la pièce. Mais si on veut se rassurer, on peut déjà regarder tout le chemin parcouru par les Européens et puis par la technologie en 10 ans. Et si on est optimiste, se projeter et dire qu'on n'est pas à l'abri de aussi très bonnes surprises, comme le disait Thomas.
Eh bien, restons optimistes, c'est tout ce que je nous souhaite. Merci à tous les deux, Guillaume Vernier, directeur associé au BCG, expert en transition énergétique, infrastructure de mobilité, et Thomas Weber, directeur associé au BCG, expert des sujets automobiles. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.